archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. La crise que traversent actuellement les éleveurs nous rappelle celle de la vache folle qui a affecté les troupeaux dans les années 2000. C'est un virus différent, la dermatose nodulaire, mais qui aboutit à un résultat identique. On abat les animaux pour stopper l'épidémie. Bien sûr, c'est un drame pour les éleveurs qui perdent de leur travail leur gagne-pain, sans compter la douleur de la disparition brutale d'un cheptel dont ils prennent soin depuis des années. Nous ne discuterons pas le bien fondé de cette politique d'abattage systématique. Elle se passe aujourd'hui comme elle s'est passée hier. Seule solution efficace, disent les décideurs, contre la propagation de la maladie. Nous allons plutôt, grâce à notre archive, rencontrer ceux qui, durant cette période, préconisent un retour à une agriculture plus traditionnelle et respectueuse des méthodes d'élevage naturel. Le reportage date du mois d'août 2001. On l'écoute et on se retrouve dans 20 minutes.
Fréquence Terre.
Mon foin, c'est du foin qui a été fait donc en l'an 2000, hein, juillet 2000. Et donc il est un peu jaune, il est un peu chaud comme ça, mais il est de parfaite qualité. Et mes animaux sont nourris que au foin, uniquement à l'herbe et des céréales achetées à une usine qui me fournit les documents certifiés non farine animale d'origine végétale 100%.
Bonjour à tous, avec vous Véronique Guémard. Élevage traditionnel contre vache folle, la crise n'en finit pas de rebondir et même les plus irréductibles et traditionnels des éleveurs en subissent encore les conséquences. Véronique Fournier a fait un choix de vie, élever une cinquantaine de vaches de manière traditionnelle au cœur de la Normandie, une région verdoyante au nord-ouest de la France. Une région plus connue pour ses fameuses vaches laitières noires et blanches. Mais voilà, Véronique Fournier, depuis qu'elle s'est installée il y a 18 ans, a choisi de se lancer dans l'élevage de vaches limousines, une race rustique. Malgré son choix de ne jamais utiliser de farines animales dans l'alimentation de son troupeau, Véronique a subi de plein fouet les deux fameuses crises de la vache folle. Tout d'abord en 1996, date à laquelle les scientifiques ont mis en relation cette maladie animale, dont le nom scientifique est l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou ESB, et la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme, qui a déjà fait une centaine de victimes. Et puis ensuite, en novembre 2000, lorsque la France décide finalement d'interdire toutes les farines animales dans l'alimentation de tous les animaux. Mais aujourd'hui encore, même ceux qui, comme Véronique Fournier, ont choisi les méthodes traditionnelles d'élevage, ont du mal à remonter la pente. Arnaud Jouve l'a rencontré sur son exploitation du Renoir, dans le pays d'Auge, en plein cœur de la Normandie.
Moi, j'ai toujours choisi la méthode traditionnelle. Quand j'ai commencé avec 3 vaches. Dans ma tête, c'était bien clair qu'il fallait faire du traditionnel, pas d'hormones, quoi que ce soit comme ça. Et c'est plus difficile de faire du foin que des ensilages d'herbe ou de maïs. Je ne sais pas si tu connais la façon de faire. Hein. On broie très très finement le maïs une fois arrivé à maturité, c'est-à-dire au mois d'octobre. Et l'herbe, c'est le même principe en cette période de l'année. Quoi. C'est-à-dire qu'elle est broyée finement. C'est une sorte de conserve. Quoi. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ce sont des ensilages. Et c'est fermenté, c'est beaucoup plus ammoniaqué, donc les animaux en mangent, effectivement, ça grandit plus vite, etc., etc.
Donc ça a été un choix dès le départ.
Ça a été un choix dès le départ de ne pas labourer, de ne pas casser les terres, rien traditionnel.
Et c'est un choix qui est marginal ou est-ce qu'une grande partie aujourd'hui des...
Dans mon coin ici, je pense que c'est assez marginal. C'est les gens font du foin surtout pour leurs petites bêtes, hein, les jeunes. Parce que les bêtes jeunes ne doivent pas, en principe, manger l'ensilage. Mais pour les farines animales, à mon avis, y a où on se fait avoir sans faire exprès. Hein. On a tous acheté chez... C'est un gros bonnet, surtout ici, hein, il est placé partout. Ou alors, il y en a qui ont carrément choisi les farines animales par choix, hein, parce que ça leur plaisait, que c'est...
Ça avait quel avantage? C'est moins de travail?
Bah, les farines animales, ça, je pense qu'il n'y a plus de rendement. Hein. Ça, c'est clair pour tout le monde. Là. Oh, il est sympa le 7608.
Les 48 vaches et les 2 taureaux de Véronique Fournier sont dans les champs du mois de mai jusqu'en novembre. Dans la stabulation, le grand hangar où les vaches ne rentrent que pour l'hiver, il y a 2 veaux qui ont été séparés de leur mère pour être vendus.
Ces veaux-là ne devraient pas être là parce qu'on a eu d'abord la vache folle, cette crise au mois de novembre qui nous a frappés et qui toujours retentit au mois de mai comme ça. Parce qu'il n'y a pas de demande, les gens n'osent pas finir les produits. C'est-à-dire, moi, mes veaux, comme vous les voyez là, ils sont pas, on ne peut pas les manger. Hein. Il faut encore 2 ans de travail dessus, qu'un autre éleveur me les reprenne, etc., pour les finir. Et puis, il y a eu la fièvre aphteuse, et là où les regroupements de veaux étaient interdits, etc. Donc, on a tous vu les marchés de veaux interdits, surtout dans l'Orne et dans la Mayenne, où aucun regroupement était autorisé. Voilà.
Donc tout le monde est resté avec ses bêtes.
Voilà, tout le monde est resté avec ses bêtes parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais sinon, au mois d'avril-mai, c'est là où il y a la plus forte demande de la part des éleveurs qui finissent ce genre de veau. Et là, on ne l'a pas eu. Sinon, comme tu peux voir, c'est que du foin, pas d'ensilage.
De l'autre côté du globe, la crise de la vache folle en Europe est suivie à la loupe. Irfan Alana, directeur d'une société de réfrigération en Inde, explique quelles sont les traditions d'élevage dans son immense pays.
We have the world's largest population of bovine animals. About 200.
Nous avons la plus grande population ovine au monde, environ 230 millions de vaches et 93 millions de buffles. On en est arrivé là parce que notre population fait très attention à ses troupeaux. Nous n'avons même pas d'agriculture intensive. La moyenne est de 3 à 5 animaux par cheptel et l'animal est considéré comme un membre de la famille. C'est surprenant, mais en Inde, les gens donnent des noms à leurs animaux et quand ils crient leur nom, l'animal vient à eux. Notre peuple sait que les bovins, que ce soit des vaches ou des buffles, mangent de l'herbe, ce sont des herbivores. Donc, ils ne leur donnent que des aliments naturels, de l'herbe sèche ou humide, et aussi des résidus de récolte de maïs, de canne à sucre, de bananes, de légumes. Les aliments concentrés ne sont produits que pour les grandes villes, où il y a quelques exploitations laitières intensives, mais encore une fois, ce n'est que de la farine de soja, de maïs. Ils n'utilisent même pas de farine de poisson, d'os ou de viande. C'est interdit par la loi, et ce n'est pas pratiqué. Malheureusement, en Europe, ils ont nourri des animaux herbivores, qui sont supposés manger que de l'herbe, avec des farines animales. Donc voilà, vous avez votre problème maintenant. C'est ce que j'appellerais une ordonnance pour un désastre. C'est terrible parce que des gens meurent de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob parce qu'ils ont mangé de la viande contaminée.
That people are dying because of CJD by eating meat.
Retour en Normandie. Même les éleveurs qui, comme Véronique Fournier, ont choisi les méthodes traditionnelles, ils ne se sentent pas vraiment à l'abri.
Chez moi, j'ai toujours acheté de bonne foi des aliments d'origine céréalière, protéines d'origine 100% végétale. Mais bon, quand on achète, hein, on peut être trompé des fois. Et ça j'ai peur de ça, hein, qu'il y ait quelqu'un qui ait l'esprit assez tordu et puis qui a introduit des farines dans ses aliments. Mais je sais qu'à un certain moment, une année, j'ai acheté un grand fabricant de produits pour les animaux et je me mords les doigts aujourd'hui. Hein. Je ne citerai pas son nom pour ne pas lui faire de publicité, voilà.
Et donc, il y a des contrôles, il y a des...
Ah oui, nous, on est contrôlés. Moi, je sais qu'il y a un technicien qui peut venir à n'importe quel moment prélever des aliments. De toute façon, j'ai des certificats... qui me garantit mes produits d'origine végétale 100%. Et puis, il y a eu cette affaire de dioxine aussi, il y a 2 ans. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais nous, on est très, très, très surveillés. Hein. Et même sur mon herbe, il n'y a aucun engrais chimique. Il n'y a que le fumier des vaches. Aucun produit de traitement. On fauche nos chardons. On est encore moyenâgeux par rapport à certains.
Et pourtant, vous êtes aussi productif que les autres. Enfin,
moins vite. Moins vite. On va, ça va moins vite. C'est-à-dire que ce que moi, je fais en 3 ans, d'autres le font en 2 ans. Moins de 2 ans. C'est même au niveau des naissances, hein, mes vaches, elles font leur veau à 3 ans. Il y en a qui reculent dans le temps parce qu'elles ont été plus poussées, plus nourries, plus ci, plus ça. Et voilà, quoi. Mais il y en a qui font du vélage. Moi, je fais du vélage à 3 ans. Il y en a qui font du vélage beaucoup plus tôt et qui, à la fin, gagnent presque une année, donc gagnent un veau de plus, quoi.
Et donc, comment tu expliques ça? C'est le productivisme, c'est essayer de faire le plus d'argent, le plus rapidement.
Oui.
Enfin,
c'est l'argent facile, quoi. L'argent plus vite et moins d'embêtement. Mais je ne sais pas si, au bout du compte, je ne sais pas si c'est la même chose, parce que faire du maïs, faire beaucoup d'aliments comme ça sur une ferme, hein, ça demande beaucoup de fuel, des tracteurs super puissants qui dépensent beaucoup d'argent. Hein. Quand on allume un tracteur, ça coûte 100 francs de l'heure. Hein. Amortissement tout compris, le gasoil, l'huile et tout. Mais c'est une autre optique. Hein. Mais c'est plus facile d'être sur le tracteur que, que de pousser le foin tout l'hiver aux vaches. Voilà, mais c'est vrai, hein, c'est vrai.
Alors que les farines animales ont été interdites pour l'alimentation des bovins dès le mois de décembre 1988 en Grande-Bretagne, ce pays a quand même continué à exporter ses farines. Écoutez le témoignage de Irfan Alana sur ce qui s'est passé en Inde.
Il y a eu une erreur commise par le gouvernement britannique. Ils ont exporté des farines animales vers l'Indonésie. Et les 3 premières lettres de l'Indonésie sont IND, comme l'Inde. Donc les autorités ont informé que l'Inde avait reçu des farines animales de Grande-Bretagne. C'était il y a 10 ans. Mais au cours des 25 dernières années, l'Inde n'a pas importé un seul kilo de viande. Et le ministère britannique de l'Agriculture a dû écrire une lettre d'excuse au gouvernement indien. Notre gouvernement est très choqué de l'attitude du gouvernement britannique, puisque s'ils sont supposés ne pas nourrir leurs vaches en Grande-Bretagne avec des farines animales, pourquoi le faire dans un autre pays? C'est très irresponsable et même honteux d'avoir autorisé les exportations de farines animales. Ils auraient dû les contrôler.
Pour les pays qui n'ont pas les moyens de contrôler ce qui arrive à leurs frontières, la crise de la vache folle en Europe constitue une menace permanente. Abdoulaye Bouna Niang, délégué du Sénégal auprès de l'OIE, l'Office international des épizooties, et vice-président de son comité international.
Il est arrivé parfois que ces farines de viande soient tout à fait bonnes à la consommation humaine. Je crois qu'on aurait dû quand même se souvenir que le monde étant indivisible, il aurait peut-être servi d'une autre manière à des populations dans d'autres parties du monde qui en auraient eu grandement besoin. Mais ceci étant, on a tenté de les reconvertir dans les filières animales. Je pense que cette reconversion a été à l'origine du cataclysme que nous connaissons.
Alors justement, au Sénégal, est-ce que vous vous sentez à l'abri? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des importations, par exemple, de farines animales qu'on n'aurait pas pu contrôler ou...
Bien évidemment, nous n'avons pas les moyens de lutter contre une arrivée massive de viande d'origine inconnue. Je veux dire que nous n'avons pas les moyens de contrôler, nous n'avons pas les moyens de vérifier, nous n'avons pas les moyens d'analyser, nous ne sommes pas suffisamment nombreux, les agents ne sont pas motivés, mais nous devons faire appel à la solidarité scientifique internationale pour que les choses se passent au mieux. Je pense que des dispositions ont été prises sur le plan réglementaire. Notre pays a réagi en temps opportun pour interdire l'importation des viandes, en particulier, je le regrette beaucoup, d'origine européenne, parce que nous n'étions pas capables de faire la distinction entre une viande qui nous viendrait de Grande-Bretagne, d'Irlande ou des Pays-Bas. La situation des importations était telle qu'on ne pouvait pas faire la distinction. Alors on a dû prendre des mesures unilatérales, que nous sommes en train de revoir d'ailleurs pour parer à toute éventualité.
Autre analyse, celle de Rachid Bouguédour, délégué de l'Algérie auprès de l'OIE. Pour lui, le grand responsable de cette crise, c'est avant tout la course au productivisme.
Il est clair qu'aujourd'hui, je pense que les pays industrialisés, notamment donc les pays européens, se rendent compte avec le recul que la modification de technologie liée à l'alimentation animale a engendré ce type de pathologie qui ensuite aujourd'hui est devenu un problème de santé publique important. Donc je pense qu'il y a une leçon à tirer pour l'avenir, c'est de dire que finalement, il ne faut pas trop bouleverser certaines habitudes alimentaires. Il faudrait que nos animaux continuent à être nourris de manière naturelle. Je crois que maintenant tout est sensibilisé, même dans les pays pauvres. Aujourd'hui on se rend compte qu'il faut continuer quand même à nourrir, à avoir un équilibre et à ne pas rompre cet équilibre parce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui quelles pourraient être les conséquences. Aujourd'hui on a la vache folle, demain on aura peut-être d'autres pathologies qui vont apparaître. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. La course à la productivité a engendré ce type de problème. Je pense qu'à l'avenir il faudrait qu'on fasse attention et que on ne donne pas une conscience totale à la production à outrance. Il faudrait qu'on sache trouver un juste équilibre. Les pays pauvres, je crois, c'est à leur corps de fondant, ne sont pas rentrés dans une politique productiviste. Mais je crois qu'à quelque chose, malheur est bon. On se rend compte aujourd'hui qu'il y avait un équilibre à trouver. Nous observons beaucoup parce que nous sommes importateurs en général. Donc nous craignons beaucoup que ce type de pathologie ou ces farines animales qui aujourd'hui sont hyper stockées de très grosses quantités en Europe ne puissent se retrouver dans notre continent.
Donc, vous ne vous sentez pas à l'abri ?
On ne peut jamais être à l'abri d'un trafic, même si tous les pays ont pris des mesures pour se prémunir, on ne peut jamais être à l'abri d'un trafic.
Les contrôles coûtent cher et...
Les contrôles coûtent cher et puis, vous savez, on n'est pas à l'abri d'esprits malveillants qui pourraient un jour essayer d'exporter vers nos pays ce type d'alimentation. Donc nous restons prudents, nous restons attentifs à ce qui se passe. Nous espérons que cette crise soit résolue assez rapidement en Europe pour que les flux de marchandises reprendront comme classique.
C'est-à-dire que l'Algérie a adopté quelle politique par rapport à cette crise ?
Mais il faut savoir que l'Algérie a, dès 1989, interdit les farines animales. C'est-à-dire, ici à l'OIE, en 1989, nous avions déjà, à l'écoute de ce qui se passait en Grande-Bretagne, et à l'instar des États-Unis, à l'époque déjà interdit toute farine animale sur le territoire national.
C'est-à-dire qu'à l'époque, jusque-là, jusqu'en 1989, vous utilisiez des farines animales ?
Non, ce n'est pas traditionnel dans notre élevage, mais nous l'avons officialisé, l'interdiction. Vous ne trouverez jamais de farine animale sur le marché, sauf des farines de poisson qui sont faites localement. Donc ce n'est pas une tradition chez nous. Mais en 1989, nous avions officialisé l'interdiction.
Des farines de poisson sont quand même données à des ruminants ?
Les farines de poisson continuent à être données à la volaille. À la volaille. De tradition, les farines de poisson utilisées chez la volaille. Bon, nous avons aussi interdit toutes les viandes européennes à partir de 1996. Donc lorsqu'on a fait le lien entre Creutzfeldt-Jakob Varian et vache folle. Donc l'Algérie est un pays qui importe très 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 peu de viande, du fait que nous sommes un pays de moutons, nous sommes un pays consommateur de moutons, donc 90% de la consommation de viande rouge c'est de moutons. Donc nous sommes un pays qui en principe ne devrait pas avoir trop de problèmes s'il n'y a pas de trafic aux frontières.
Farine animale, ça te booste. C'est de la bonne défense rurale. C'est du roots, yes, de l'authentique, du typique. Je vois mon clone dans l'arrière-boutique. Sniff.
La peur n'existe pas que dans les pays en développement. La période d'incubation de la maladie de la vache folle peut être de 5 ans. Et encore aujourd'hui, des éleveurs découvrent dans leur cheptel des cas de vaches affectées par l'ESB. Et par mesure de précaution, le gouvernement français a décidé d'éliminer systématiquement l'ensemble du troupeau. C'est arrivé à un voisin de Véronique Fournier en Normandie. Et pourtant, lui aussi, ne faisait que du traditionnel. Alors comment expliquer ce cas ? Et pourquoi éliminer l'ensemble du troupeau ? Se demande Véronique. En attendant, la crise continue donc. Et les prix ne remontent pas. Mais pour Véronique Fournier, le plus important... c'est son métier, l'élevage. C'est de faire ce qu'elle appelle des beaux produits, sains, des belles vaches qui pourront donner de jolis veaux.
La catastrophe, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces veaux qui sont nés, de tous ces petits mâles et tout. Moi, je ne pouvais pas garder ça sur la ferme. Hein. Donc, on a bradé à des prix terribles, quoi. Parce que le problème, c'est que moi, mes animaux sont... j'essaye au maximum qu'ils soient à la production. Par sentimentalisme, hein. Je ne sais pas si ça se dit beaucoup ça, mais on est contente, on dit « Oh, cette petite génisse-là va faire une jolie reproductrice, elle va faire des beaux veaux à viande, etc. » pour un autre éleveur qui, lui, est du premier maillon de la chaîne au dernier, quoi, qui fait naître et qui engraisse. Et moi, c'est le but du jeu. J'ai des nouveaux voisins qui sont allemands, qui sont installés agriculteurs, là, depuis un an. Ils m'ont acheté 4 génisses, mais j'étais aux anges. Parce que 4 génisses, avec les 4 génisses, ils vont faire des bébés avec. Et ça... Moi, c'est ça qui me plaît dans l'élevage. C'est surtout ça, c'est de l'élevage. Et faire la viande, c'est autre chose, c'est un autre œil. Celui qui fait de la viande n'a pas le même œil que celui qui fait de l'élevage. Moi, je regarde la grandeur, les hanches d'une vache, etc. S'il va y avoir facilité de vélage, etc., etc. Les qualités maternelles, si elle a du lait. C'est tout cet aspect-là, la gentillesse de la bête, si on peut l'amener. Parce que si ensuite les éleveurs, surtout les hommes, sont très fiers de leurs animaux, donc ils veulent les amener en concours et tout. Donc si vous avez une bête infecte, c'est pas la peine. Il faut que la bête soit intelligente, qu'elle réponde à beaucoup de critères. Hein. Alors bon, moi j'ai 2 taureaux, mais il y en a qui inséminent, donc qui font de l'insémination. Et là, la génétique avance plus vite quand même. Ça, c'est l'avantage de l'insémination. Mais bon, moi je suis contente avec mes 2 taureaux parce que c'est moi qui les choisis, c'est moi qui les vois. Je descends à Limoges, ça fait l'occasion d'un petit voyage avec ma mère. Et on est contente. On se promène dans l'étable, on tâtonne les veaux. On voit leur comportement, parce que sur catalogue, ils sont bien gentils sur la photo, mais après. C'est vrai ça. C'est...
Alors, tu choisis vraiment.
Oui, j'ai choisi vraiment. Je les interviewe avant aussi. Hein. Je regarde leur comportement quand je suis près d'eux et tout ça, parce qu'un taureau, hein, qu'on soit homme ou femme, hein, ça ne fait pas de cadeau. Hein. Je mets des fruits dans mes poches, hein, des pommes, des trognons de pommes, des petits bouts de poire. Et mon taureau, il vient manger dans ma main. Hein. Et j'étais tellement contente de moi d'avoir réussi ça au bout d'un certain nombre d'années, d'un certain nombre de taureaux, parce que moi aussi, il a fallu que je m'adapte aux animaux, que j'ai mis la photo pour que les paysans voient qu'avec la douceur, enfin certains paysans, on arrive à quand même pas mal de choses.
Est-ce que c'est impressionnant quand on te voit à côté de, par exemple, de Judo, qui est une belle bête, qui pèse combien à peu près qui...
Il doit peser, oh oui, 900 kilos. Là, il est en période de saillie, donc il est un peu mince, mais non, s'il est bien, bien traité, tout ça, au mois de septembre-octobre, les saillies seront terminées, il devrait quand même frôler la tonne. Hein. Et c'est un gentil pépère et... Il est très sympa, hein. Il n'y a pas de problème. Et il faut de la douceur parce que ça a une mémoire phénoménale, les animaux. Hein. Si vous leur faites du mal, il y a des réflexes qu'il ne faut pas avoir. Hein. Même s'il faut beaucoup de patience, c'est pire que des enfants hein, parce que ça ne comprend pas tout. Alors c'est nous qui devons penser pour eux pour certaines choses.
La crise de la vache folle est malheureusement devenue une crise de santé publique qui révèle aussi la folie des hommes dans la course à la productivité. Cette crise et surtout celle de la fièvre aphteuse qui a eu comme conséquence l'abattage de milliers de bêtes ne doivent pas faire oublier le métier de ces éleveurs qui font le choix des méthodes traditionnelles et qui aiment leurs bêtes au prix d'y sacrifier leur vie. Cette émission se termine sur ce témoignage d'une femme amoureuse de ses bêtes pour faire de beaux produits, comme elle le dit si bien. Le reportage était d'Arnaud Jouve, les entretiens de Véronique Guémard sur une réalisation de Guillaume de Rachinois et un mixage de Pierre Bilot. Vous pouvez nous réécouter sur le site www.rfi.fr et nous envoyer vos messages à l'adresse fréquence.terre@rfi.fr. À la semaine prochaine.
Reportage produit en août 2001 durant la crise de la vache folle provoquée, vous le savez, par les farines animales dont on nourrissait les troupeaux à cette époque. L'actuelle crise, liée à la dermatose nodulaire, est d'une toute autre nature puisque la maladie se transmet par les insectes. Le virus peut donc atteindre les animaux, qu'ils soient enfermés ou à l'extérieur. Difficile à contenir donc, C'est pourquoi la politique d'euthanasie des troupeaux ou des cas se révèle a été décidée par les autorités. En tout cas, cette actualité dramatique remet au premier plan la réflexion sur un élevage moins intensif, plus naturel. On l'a entendu dans notre archive, trouver un modèle moins concentré, mieux adapté aux risques sanitaires et climatiques est engagé depuis au moins 3 décennies. Mais là comme ailleurs, les progrès sont difficiles. Un chiffre pour vous donner un ordre de grandeur. On estime que le lait bio représente en France environ 5% de la collecte nationale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site alternantefm.fr. Vous pouvez envoyer le lien de l'émission à vos amis également. Une chanson engagée pour finir, un hommage aux vaches et un message à la profession de ceux qui s'en occupent. C'est un chanteur, il se nomme Monsieur Sebi, qui propose sur Internet, c'est le titre, une chanson de soutien aux agriculteurs.
Chaque vache avait un nom.
À l'année prochaine.
Une histoire, un regard. Ce n'étaient pas des chiffres alignés au hasard. Ils les ont vus partir sans pouvoir leur parler. Des cœurs qui se déchirent sans même pouvoir pleurer. Soutenons les agriculteurs, à ceux qui nous donnent à manger, et dénonçons tous ces voleurs, tous ceux qui veulent tuer le métier. L'amour donné aux
yeux des vaches.